Je pensais au fait que quand on devient chrétien, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en nous. La Bible nous donne plein de versets, il y a plein de passages qui nous décrivent ce qui se passe dans une personne quand elle devient chrétienne. Donc il y en a quelques-unes là. Par exemple, nous passons des ténèbres à la lumière dans 1 Pierre 2, 9. Nous recevons un sceau. Donc, nous sommes marqués comme enfants de Dieu. Éphésiens 1, 13 et 2 Corinthiens 1, 21, 22. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Nous sommes intégrés dans la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19 à 22. Nous recevons un appel particulier à chacun. Jean 15, 16. Éphésiens 4, 1. Et nous devenons une nouvelle personne. La conséquence, c'est qu'on commence à déranger tous ceux qui sont autour de nous, notre entourage, voilà. On commence à déranger. Déjà, notre propre petit monde commence à changer. On change nos habitudes. Et aussi, on commence à impacter le monde d'une toute nouvelle manière. On n'a pas besoin de se forcer. On a reçu une vie qui fait que voilà, on commence à déranger notre entourage, à impacter les gens qu'on rencontre, avec qui on interagit. Et donc, du coup, le passage sur lequel on va se baser aujourd'hui, c'est Matthieu 5, 14 à 16, que je vais lire. C'est un passage que Jésus utilise justement dans cette illustration de la nouvelle identité, de qui on est. Donc, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ça fait partie de notre identité. Nous sommes la lumière du monde. Dieu nous a posé en hauteur pour être vu, parce que c'est le moyen qui va permettre aux gens autour d'être éclairés et d'être guidés. Et aussi, les gens ont besoin de cette lumière pour être délivrés à leur tour, pour être délivrés de ce monde de ténèbres. On peut voir aussi dans le monde, on discutait tout à l'heure. Ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de... On est dans les ténèbres, quoi. Et les ténèbres vont s'agrandissant. Là, j'en ai cité trois, là. Les agressions gratuites auxquelles on assiste. Quand on voit le journal télévisé, on entend que, voilà, un jeune s'est attaqué à une vieille femme, lui a pris son sac, l'a balancé par terre et est parti. La connerie d'Adam et d'Ève, où des gens, ils se vengent. Quelqu'un leur a fait quelque chose, ils se vengent sur le premier venu. Ils croisent quelqu'un au coin de la rue, ils lui balancent, je sais pas, un coup, et puis voilà, ils continuent sa route. Avant, quand on voulait se venger, on se vengeait sur la personne qui a causé le tort. Maintenant, c'est plus le cas. C'est peu importe. Je vais casser ta voiture ou ta maison. Peu importe. Quand on pense aux émeutes qui sont passées dernièrement, il n'y avait pas de raison logique. Il y a une logique en tout. Mais c'était juste, je le fais gratuitement, je prends rien, je casse juste et je repars, tranquille. Donc, les agressions gratuites qui montrent bien la méchanceté du cœur de l'homme et puis les ténèbres qui nous entourent. Il y a aussi l'aveuglement quant aux mœurs. Les mœurs sont en train de changer radicalement. Bon, elles sont déjà bien. elles ont déjà bien changé. Les valeurs morales sont rejetées. Le bien appelé mal, le mal est appelé bien, c'est pas nouveau, mais on voit comment ça va à une vitesse. Et ensuite, on a la détresse actuelle, quand on voit les tremblements de terre, les inondations, là, dernièrement, les gens qui pleurent. Au journal, pareil, on voit tellement de gens qui pleurent. Les gens ont tout perdu, ils ont perdu leur maison. Des gens venaient de s'installer, venaient d'acheter, ils perdent tout. Donc, il y a une vraie détresse. Donc, il y a vraiment des ténèbres bien qui s'épaississent tout autour de nous. Donc, et notre raison d'être, la lumière qu'on est sur la montagne, va à sa place et va avoir de l'impact. Et dans ce passage, il y a trois verbes que j'ai relevés aussi. Donc, par exemple, le verbe « situer », une ville située sur la montagne. Ça veut dire qu'elle y est établie. Dieu, c'est comme si Dieu prenait une lampe, l'a allumée et l'a posée là sur la montagne. C'est Dieu qui nous y a placé en position pour éclairer, parce qu'il veut éclairer le monde. Les commentateurs parlent de vase. Quand on voit dans la Bible, notamment dans la culture juive, il y avait un vase qui était posé, les gens venaient, il y avait de l'eau qu'on pouvait prendre pour laver les pieds. C'est un objet qui est posé là, qui a un but précis et qui va servir. Donc les commentateurs font allusion à cet exemple-là. On a reçu un appel aussi, l'appel que nous avons reçu. Le but de cet appel, quand on y marche, c'est d'éclairer. Ça va servir à éclairer notre entourage, même le plus faible. Donc, quand il y a des ténèbres épaisses et qu'on allume une bougie, ça éclaire. Même une toute petite bougie, une petite lampe, on va voir une petite lampe de loin qui est en train d'éclairer. Donc, le plus faible, la plus petite lumière va éclairer. C'est notre rôle. Ensuite, il y a le verbe « cacher ». Elle ne peut pas être cachée. Elle ne peut rien faire pour se cacher. Une ville entière, c'est drôle, les exemples qu'il donne, c'est une ville entière sur une montagne va la cacher. C'est pas juste un petit truc, c'est vraiment une ville. Donc elle est bien visible et elle va éclairer. Donc on ne peut pas la cacher. Nous sommes appelés à éclairer et les gens vont scruter nos faits et gestes parce que justement nous sommes exposés. À partir du moment où les gens savent que nous sommes croyants, ils vont analyser tout ce qu'on fait. Nos collègues, les membres de nos familles vont regarder. Et quelque part, inconsciemment, des fois, ils se positionnent par rapport à ce que nous, on pense et la manière dont on marche. Nous, on n'en est pas forcément conscient, mais... dans 1 Timothée 5, 25, il est dit, « De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Et ensuite, il y a le verbe « voir », « afin qu'ils voient ». Donc, afin qu'ils soient témoins, qu'ils observent ce qu'on est en train de faire, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, ils nous regardent. Et là, on peut citer l'exemple de Moïse qui est... dans les montagnes et qui voit ce buisson qui brûle et qui se détourne pour voir. Et c'est ce qui se passe avec le monde. Il voit quelque chose d'inhabituel, de surnaturel, à cause de nos actions, et il se détourne pour voir. Parce que là, ça les interpelle. Il y a un truc là qui n'est pas normal, qui n'est pas comme ils ont l'habitude de voir. Donc, Dieu nous a positionnés pour qu'on puisse interpeller le monde. C'est ça notre rôle en tant que lumière. Donc, ensuite, nous sommes lumière parce que lui est lumière. Dans Psaume 36, 9, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et on voit que Jésus dit de lui-même qu'il est la lumière du monde. Donc, on peut relier le passage de Matthieu 5 qu'on est en train d'étudier à cette affirmation de Jésus dans Jean 8, 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ensuite, dans Jean 9, 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ésaïe dit en Ésaïe 9, 2, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ensuite, on voit quand Jean-Baptiste est envoyé, il est dit de lui ou c'est Jean-Baptiste plutôt qui dit, non, c'est l'apôtre Jean qui dit, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ensuite, dans Luc 2, verset 32, quand Siméon, dans le temple, il a cette promesse qu'il va voir le Messie avant de partir, et lui, il est déjà vieux, il a vécu sa vie pour servir Dieu. Donc, son attente est là. Il sait qu'il va le voir donc vieux, il sait que ça ne va pas tarder parce qu'il est déjà vieux, et il est censé voir le Messie. Donc là, il est dans le temple. Je suppose qu'il y passait beaucoup de temps parce que il attendait cette promesse-là. Et Jésus, à 8 jours, ses parents l'amènent dans le temple, comme c'est dans la tradition, et il reçoit Jésus dans ses bras, et il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc Jésus est cette lumière, parce à cause de Jésus, nous l'avons reçu, nous sommes en lui, et nous sommes cette lumière qui brille maintenant dans le monde. Donc là, Jésus fait une métaphore. Quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », bien sûr, on n'a pas d'interrupteur. Ce qu'il veut dire, c'est « Vous êtes la manifestation de la vérité ». Par vous, les gens auront accès à cette vérité. Lui-même est la vérité, dit « Je suis la vérité ». Donc, il nous a établis pour qu'on puisse jouer le même rôle dans ce monde. Nous sommes des diffuseurs de vérité par nos actions, par tout ce qu'on fait. Nous sommes là pour montrer ses vertus. On le voit dans l'épître de Pierre. Parle beaucoup de vertus quand ils encouragent les croyants, les chrétiens. Nous avons reçu une puissance, une vie, et nous sommes appelés à montrer les vertus de Jésus-Christ. Il veut que nous brillions comme des flambeaux. En 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Philippiens 2, 15, 16, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, cette partie est intéressante parce que dans ce passage de Matthieu 5, verset 16, on voit que Jésus relie directement la lumière que nous sommes à notre manière d'éclairer par les œuvres. C'est intéressant, on ne parle pas beaucoup des œuvres. On n'est pas, on sait que Dieu, qu'on est appelé à faire des choses, chacun fait ce qu'il a à faire, mais il le dit là clairement, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, il y a quelque chose d'intéressant avec nos œuvres, là. On peut briller par notre attitude ou par nos actions. On est appelé à... Il faut que quelque chose sorte de nous. Donc, une attitude irréprochable, pure, irrépréhensible, qui va à l'encontre de ce qu'on voit dans le monde. Il faut qu'il y ait vraiment cette opposition, qu'il voit bien qu'il y a des gens qui sont différents. Donc, nos bonnes œuvres peuvent être le bien qu'on fait autour de nous, la compassion qu'on exprime, le service qu'on va offrir. Et toutes ces choses, si elles sont faites au travers du canal qui est Jésus-Christ, va avoir un impact. C'est ça la lumière. On voit bien dans le monde, on n'est pas les chrétiens, on n'ont pas la particularité d'être ceux qui font le bien ou de faire de bonnes œuvres. Il y a tellement de gens dans le monde qui donnent des millions pour sauver, pour des causes. Ils font plein de choses, mais et c'est bien, mais ça n'a pas d'impact éternel. Ça n'a absolument aucun impact éternel si c'est pas accompagné de l'évangile ou accompagné de la vie qui est en Christ. Et nous sommes la différence avec nous dans ce que nous allons faire, c'est vraiment cette marque de compassion, qui est vraiment quelque chose qui vient du cœur de Dieu, faire les choses avec compassion, même si je donne de l'argent. Même si je vais aider quelqu'un, je le fais vraiment pour rendre service et par amour, quoi. Dans Éphésiens 2:10, il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ensuite, Jésus est notre modèle quand on parle de bonnes œuvres. Il a brillé par ses actions, en fait. Jésus n'est pas arrivé et les pharisiens étaient là, qui se considéraient comme des personnes saintes. Jésus ne circulait pas juste dans la ville où ça c'est quelque part, les gens venaient, ils leur prêchaient. Et c'est pas comme ça, à vrai dire, qu'il a eu un impact. Il a eu un impact par toutes ses actions. Bien sûr, il y a eu des prophéties, il y avait des choses bien précises qu'il devait faire, comme ressusciter et tout ça, guérir les malades, mais par ses actions, le fait qu'il ait nourri des gens, son cœur de compassion, c'est ça en fait qui... ses œuvres ont porté son message en fait. C'est ça qui a fait qu'en 3 ans, il a tout... la Judée, Jérusalem, les gens venaient, ils se déplaçaient, et c'est à cause des actions qu'il faisait au fait. Donc il a été rendu visible, sa lumière a été rendue visible à cause de ses actions. Donc c'est pas par sa prestance, ni sa sainteté, ni voilà, ça pas simplement par ses messages. Toutes ses actions étaient enrobées de compassion. Donc il a nourri des foules. On voit jamais quelqu'un qui s'approche de Jésus et qui est rejeté, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Il a eu beaucoup d'interactions dans tous les évangiles. Chaque chapitre, chaque ligne, c'est un tel est venu le voir, un tel est venu le voir. Même les pharisiens n'ont jamais été rejetés. Il allait manger dans la maison des pharisiens. Il savait qu'il venait des fois pour le piéger, mais il prenait le temps de discuter avec eux. C'est extraordinaire. Et justement, c'est sa particularité à accepter les gens qui ont vraiment lui ont donné un impact à son message et ce qu'il a fait. Donc en Matthieu 15, 32, Jésus ayant appelé les disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Voilà, ça c'est notre Seigneur. Il y a une série de versets justement sur tout ce qu'il a fait. Matthieu 14, 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Matthieu 4, 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et on voit que tous étaient émerveillés et glorifiaient Dieu. Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Luc 5, 26, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Luc 18, 43, à l'instant il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Luc 7, 16, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc voilà, nous c'est pareil, c'est sûr on ne va pas guérir, je ne sais pas moi, des foules, faire des choses qu'on peut penser extraordinaires, des miracles, de grands miracles peut-être, mais qui sait? En fait, on ne sait pas jusqu'où Dieu peut nous amener, donc on ne peut pas fermer cette porte-là. Il y en a qui ont déjà, que Dieu a utilisé en tout cas pour prier guérir. Et nous, on peut prier, on a une puissance même dans notre prière. Il faut qu'on y croit. Si Jésus a eu plaisir avec compassion pour guérir, aujourd'hui, il est le même. Et au-delà du fait de guérir, et il y a tellement plein de milliers d'autres choses que Dieu peut utiliser au travers de nous pour faire briller cette lumière-là et attirer les gens à lui. On voit que les disciples aussi ont été rendus visibles par leurs actions, à cause de leurs actions. Quand Jésus les envoie dans les différentes villes pour évangéliser, dans Matthieu 10, 7, il est dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc c'est extraordinaire. C'est vraiment, on est appelé à donner. Donner, ça peut être physique. Et ça peut être aussi juste donné dans nos relations. Et c'est touchant de voir comment il termine sa phrase. Il les envoie pour prêcher, faire plein de choses, mais il dit, vous avez reçu gratuitement. C'est, souvenez-vous, vous avez reçu gratuitement. Donc vous êtes, je vous envoie pour donner, donner gratuitement. Donc Dieu veut se révéler au travers de nos bonnes œuvres. C'est pas seulement le fait d'être un bon chrétien reconnu peut-être parce que voilà, on boit pas d'alcool, on se tient bien. On peut aussi aimer, montrer notre amour, mais je crois que Dieu vraiment met le doigt sur le fait que on est appelé à faire des actions concrètes. Donc il n'y a aucun poids sur nous. Dans tous les cas, si on se place dans la présence de Dieu, lui, il va faire au travers de nous. C'est pas, allez-y, allez inventer une action à faire. Maintenant, il faut que je fasse des actions. C'est vraiment, c'est une vérité. Dieu nous appelle à faire des actions. Et lesquelles? Ça, c'est Dieu seul qui va nous conduire. Et c'est lui qui va le faire surtout au travers de nous. Et ça, c'est ce point important. Donc, nous sommes appelés à faire de bonnes actions. Dans 1 Timothée 5, 10, il est écrit, ça c'est Paul qui décrit la femme spirituelle. Quand il parlait des problèmes de femmes dans l'église et tout, et à un moment donné, il parle de cette femme spirituelle, il dit, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. 1 Timothée 2, 10, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 6, 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Pareil, quand il écrit à Tite, il conseille à Tite comment il devrait être, il donne des conseils à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur. Digne. Hébreux 10, 24 nous exhorte à veiller les uns sur les autres et à nous exciter aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En Isaïe 58, 6, 10, Dieu parle du jeûne et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Donc, dénoue les liens de la servitude. Là, quelque part, c'est libérer les gens. Dans mes relations, c'est moi, j'ai pensé au pardon. C'est comme ça que je délie la servitude. Je peux aliéner les gens en moi, tout simplement parce que, voilà, j'ai décidé qu'ils me devaient quelque chose. Je pardonne pas ou je leur fais la tête. Ou je vais me venger de manière très fine et malicieuse. Trouver un moyen pour que la personne le sente bien. Et je suis invitée à délier les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, c'est vraiment ça. Qu'il n'y ait aucun poids, que je ne mette pas des poids sur ceux qui sont autour de moi. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, c'est intéressant. C'est pareil, donner gratuitement, c'est exactement la même chose. Ne te détourne pas de ton semblable. Donc, le don de soi. Je faisais ce jeu de mots, pardon et don. Donc, je pardonne et je donne. Nous sommes appelés à cela. Dans 1 Pierre 2:12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ensuite, on voit Jacques, on sait que Jacques, c'est l'épître, lui, il met vraiment l'accent sur la foi et dit, c'est pas possible, la foi sans les œuvres. Il faut que ce soit accompagné d'œuvres. Et donc, on va lire quelques extraits de Jacques aussi. Jacques 2, 14, 16. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc ça rejoint bien le passage d'Ésaïe 58 qu'on a lu. Qu'est-ce que la religion pure et sans tache? C'est le bien que je fais aux autres. Colossiens 1, 10 à 12 dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc nos œuvres, parce que nous sommes dans la lumière, voilà, on va briller par nos actes. Donc, les œuvres. Dans tout ce qu'on a lu, les versets, tout ça, donc il y a vraiment deux points que j'en retire concrètement. Donc les œuvres, c'est partager nos biens. Comment? On ne sait pas, mais Dieu peut nous guider. Partager, on est vraiment appelé à partager nos biens. C'est pas une option. Ça peut être l'argent, ça peut être, je sais pas moi, de la nourriture. Je suis sûre qu'on le fait selon qu'on est guidé. Dans tous les cas, quand on est guidé, ça va tout seul. C'est pas quelque chose, maintenant je vais courir pour aller. Mais bon, qui sait, Dieu nous interpelle aussi. C'est un défi pour moi, en premier, et c'est un défi pour nous. On peut vivre tranquillement la vie chrétienne et s'en contenter. Et au fait, Dieu dit non, non, non. En action. 1 Jean 3, 17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, on est appelé à partager nos biens, à en faire part. Et ensuite, on est appelé à prendre soin de celui qui est dans le besoin. Donc ça souligne le fait d'avoir compassion quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Ne pas passer outre. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est fou, hein? Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. Donc, j'ai juste mis cette phrase-là. Donc, ça, c'est vraiment nos frères. Ça fait encore, c'est vraiment dans l'Église, au fait, que Jacques, vraiment, il souligne dans l'Église la sensibilité à ceux qui sont dans le besoin au milieu de nous. Donc, c'est intéressant. C'est un vrai défi parce que c'est pas naturel, au fait. C'est pas naturel. Ça va être beaucoup plus simple pour certains. Certains, il n'y a pas besoin qu'ils soient chrétiens pour donner. Donc, c'est même pas la norme. C'est pas parce que tu donnes, donc, t'es un bon chrétien. C'est pas du tout ce que ces versets disent. Mais, en même temps, c'est comme si Dieu disait, vous êtes la lumière sur la montagne. Et cette lumière, bah, c'est pas juste, on l'allume, c'est au fait, allumer l'interrupteur, en fait, c'est faire une action, c'est faire des choses, c'est des œuvres que j'ai créées, des choses que j'ai déjà créées. Et je veux que vous soyez en action comme moi-même, je l'ai été. Ensuite, juste quelques exemples. On voit Dorcas dans Actes 9, 36, cette femme qui est décédée, qui a été ressuscitée par... par l'apôtre Paul, il est dit d'elle qu'elle faisait beaucoup d'œuvres et demande, c'est comme ça qu'elle est décrite, Dorcas, qui, voilà, je crois qu'elle cousait des vêtements et donnait, donc on peut faire avec ce qu'on a, en fait. Et des exemples beaucoup plus proches, j'ai pensé à Marie-France, dont les biscuits de Noël sont là, qui silencieusement, on l'a pas vraiment vu, comme on la voit plus beaucoup trop, mais qui est déjà tous les Noëls, ça fait des années, tous les Noëls, on a toujours droit, elle fait les cookies de Noël, elle fait des petits sachets, et à l'école du dimanche, c'est la fête, quoi, qu'on distribue aux enfants, qu'elle en fait pour les moniteurs, puis elle en fait pour toute l'église. Donc là, elle a fait encore cette année. La veille, comme c'est dit, ok, demain, je vous apporte. On n'en a jamais parlé, on se pose pas la question. Elle fait juste des cookies et tout le monde en profite. Et il y a un grand bac aussi, là, où il y a tous ces cookies. Elle a pensé à tout le monde, en fait. Et c'est ça, c'est juste tout simplement ça, faire des œufs pour bénir. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Mais je sais pas ce qu'elle fait par ailleurs. C'est pareil pour chacune, hein. On sait pas ce que vous faites par ailleurs, je veux dire. Dieu sait, Dieu voit. Je pensais à Maryse aussi, qui peut pas se déplacer beaucoup pour être au milieu de nous tout le temps, mais je me souviens qu'à une époque, elle tricotait des chaussons pour bébé, parce qu'elle était douée dedans, et qu'elle faisait vente sur des brocantes, et l'argent, c'était pour soutenir la mission. Moi, j'en ai bénéficié, donc je le sais. Et voilà, c'est des choses comme ça. On peut pas être oisif en tant que chrétien. Et ce que notre main trouve, même il y a un verset qui dit tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Donc il y a vraiment quelque chose avec nos mains et tout ce qu'on peut, voilà, créer, produire. Je pense à une amie Jenny que certains connaissent aussi. Jenny, c'est une de nos sœurs aux États-Unis qui fait des cookies et comment elle continue à en faire des cookies, donc des biscuits américains là, qui pour soutenir la mission, donc non pas des cookies, pardon, des muffins, c'est pas pareil. Des muffins, je sais pas comment, c'est comme des cakes, hein, ouais, individuels là. Donc elle en fait, je l'ai déjà vu en action parce que je l'avais visité dans le Massachusetts, et donc elle m'expliquait ce qu'elle faisait. Elle a un petit panier, donc le soir elle dit ça me prend 15 minutes. Elle prend son bol, elle prépare la pâte et le matin, vite fait, elle met ça au four. Ça cuit très vite. Elle a son petit panier au pas de sa porte. Elle met ses muffins tout chaud et elle a sa clientèle. Elle va dans une clinique ou deux, trois endroits et elle distribue. Et avec ça, et un jour, elle m'a dit qu'elle a soutenu jusqu'à 100 000 $. Elle soutenait le directeur de l'école chrétienne en Roumanie. Et puis là, je crois qu'ils ont commencé à soutenir des gens à Oman. Elle était contente, là. En fin d'année, elle me dit, ouais, on va soutenir Oman aussi. Et avec des muffins. Donc, c'est possible. Je pense aussi à une autre dame que j'ai connue, pareil, quand j'étais à Baltimore, qui, elle, faisait... comment on appelle ça? Elle cuisinait... c'est un plat sud-américain. Elle était d'origine... Et ce plat-là avec haricots, bœuf et tout ça, une sorte de soupe, chili con carne. Donc, c'était pour soutenir Grace Awa. Elle avait à cœur de soutenir Grace Awa, donc l'émission radio qui est à Baltimore, là. Et elle vendait, ça venait 5 $. Donc, les gens pouvaient, elle apportait son... voilà, et elle vendait ça. Et les gens dans l'église achetaient, je crois que mercredi soir, après le culte, je la voyais sur la cour, là, avec son... Je dis, waouh. Et voilà, ça c'est les actes, c'est les actions, c'est des petites actions comme ça quand Dieu va nous donner l'imagination, mais voilà, on va faire des choses, quoi. Ouais, des choses qui vont être étranges. Peut-être des gens vont penser, oh, il n'y a pas besoin de faire ça, ou qu'est-ce qu'elle fait, ou les gens vont dire, ah, c'est quoi ça, même dans l'église, hein. Et mais on a cette liberté, Dieu nous appelle à faire des actions. Est-ce que Dieu nous met à cœur et comment Dieu nous conduit, on peut, et c'est ça la lumière, ça peut briller, cette lumière va impacter quelqu'un à côté de nous, dans l'église et à l'extérieur de l'église. On est juste posé sur la montagne. Nous sommes des lumières, nous allons briller. Et aussi, je me rappelle, là, en début d'année, on partageait des témoignages. Je crois que c'était avec toi, Pascal. On parlait de comment Dieu travaille dans la vie de gens qui sont dans notre entourage, qui sont à un moment donné qui se disent pas rien. Et petit à petit, sont venus visiter l'église, qui sont en train d'être transformés, mais eux le voient pas, ils pensent que c'est normal. Je pensais à mon amie Sophie, que je connais depuis une dizaine d'années maintenant, qui apprécie beaucoup ce que je vis, et elle aime. Mais je lui ai dit, c'est parce que je suis chrétienne. Je suis pas née comme ça, c'est parce que j'aime Dieu, donc ce que tu vois de moi, c'est tout simplement parce que je crois en Dieu. Et donc elle aime, elle m'appelle, des fois on mange ensemble, on discute pas mal. J'ai passé au début beaucoup de temps avec elle et puis après bah j'ai laissé parce que je l'ai évangélisée. Elle sait ce que je pense. Et elle a toujours dit moi je suis païenne. Elle venait au concert et à chaque fois elle dit ouais et bon elle disait bonjour contente à tout le monde mais moi je reste païenne hein, ça change rien du tout, je reste païenne. Elle me le disait, je dis il y a pas de souci. Hein? Et là, l'année dernière, elle a commencé à me dire, ouais, tu sais, je chante aussi dans une chorale, dans une chorale catho. Elle a rejoint un groupe. Elle est contente. Elle m'a pas dit, ouais, je chante aussi dans une chorale. J'ai dit, ok. Et là, nous, pour le réveillon du nouvel an, elle me demande comme ça, elle me dit, j'ai jamais osé l'inviter pour ce genre de choses. Concert, ça va, parce que je l'avais déjà invité déjà quand on était au théâtre, au tabernacle. Et juste le fait de savoir que c'est plus un endroit où, qui fait plus église, elle avait dit non. Nolé lui allait très bien. La petite salle de Nolé lui allait très bien. Donc, je ne l'ai jamais invitée ni pour un culte, ni quoi que ce soit. Et là, elle me demande, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ah ben nous, on se retrouve, on a une petite soirée festive, il y a des sketchs, il y a des chants, et puis voilà, on passe le reste de la soirée ensemble avant de rentrer dans la nouvelle année. Elle dit, ouais, ben j'aimerais bien venir. Donc elle est venue, je ne l'ai jamais invitée, elle est venue. Elle est restée avec nous. Donc il y a eu plein de messages après, je ne sais pas du tout comment elle a vécu cette partie. Mais bon, elle était contente d'être au milieu de nous. Et qui sait? Donc pour moi, c'est ça la lumière, en fait, c'est... On ne sait pas comment Dieu va nous utiliser, mais on a un impact, qu'on le veuille ou pas. Et eux sont impactés. Ils ne le voient pas, mais les gens qui sont autour de nous sont impactés. Tout, peut-être qu'on ne le voit pas tout doucement. Ça avance, quoi. Et il faut deux ingrédients. On en a déjà parlé. L'amour et la compassion. C'est impossible autrement. Je peux faire mes sourires, je peux donner mes biens, un truc, un coin tiendrait, je peux donner mes biens, mon corps à bouler. S'il n'y a pas de compassion, les gens le sentent. Quand les gens viennent à nous, je peux leur donner ce que je veux, même au boulot, les gens le sentent. Les gens sentent comment on les traite. Ma chef, elle m'a écrit une carte enfin pour Noël, là. Elle m'a donné un petit cadeau. Et puis, dedans, elle a dit, merci pour ta bienveillance. J'ai trouvé ça. Pas étrange parce que je connais Dieu, mais je pense que c'est étrange dans un milieu où on travaille que ma chef, elle utilise ce mot. Non, au fait, venant de quelqu'un qui connaît pas Dieu, utiliser ce mot. Et c'est ça, au fait, que je pense que Dieu veut, c'est notre bienveillance avec les gens, la compassion qu'on montre, c'est au-delà de ce qu'on peut faire, au fait. Et c'est ça qui, le fait qu'ils soient pas rejetés, qu'ils soient acceptés, ils le sentent qu'ils sont acceptés. Que peut-être il y a quelqu'un dans le groupe qui est rejeté parce que voilà, il a pas la capacité qu'il faut, il est un peu, il est infirme, ou il a un problème. Mais ils savent que nous, on a une valeur sûre, on va l'accepter. Et c'est ça qui fait notre différence, au fait. Et c'est ça, cette lumière qui brille autour de nous, dans le monde. Si on est connecté à Jésus-Christ, ça va se faire. Dans Jean 15, 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la seule chose que nous, on a à faire, c'est vraiment rester dans sa présence. Rester dans sa présence et notre lumière va briller. Moïse, ils ont dû mettre un voile sur son visage parce qu'il est resté longtemps dans la présence de Dieu. Et c'est excellent, cette... cette histoire dans la Bible où Moïse a dû porter le voile parce qu'il descendait et il brillait tellement que le peuple... tout simplement parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Si on est dans sa présence, on va briller par de mille feux, de toutes sortes de manières. Donc moi, ce que moi j'ai pris pour moi, que j'ai compris pour moi, c'est que faire des bonnes œuvres, c'était pas une option. C'est un grand défi. Et ce qui est génial, c'est que je suis pas appelée à faire des choses que les autres font. C'est pas parce que toi tu fais ça, t'as la capacité. Donc moi, je dois faire ça, sinon je suis pas une bonne chrétienne. Dieu a déjà préparé de bonnes œuvres pour moi. Donc maintenant, quelles bonnes œuvres? Il faut que j'y marche, quoi. Sinon, quelque part, ma lumière, elle est un peu altérée. Il y a des œuvres qui m'attendent, qui sont déjà préparées. Je suis une lumière. Je suis appelée, au fait, à fonctionner dedans pour que cette lumière-là puisse briller, au fait. Donc, on va finir en lisant ce passage de Jean 15, donc versets 4 à 8. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.